Alors, comme Vital l'a dit, pour nous, ce soir, on tient vraiment à vous partager l'amour de notre grand Dieu. Combien Dieu a été fidèle avec nous, mais combien Dieu est fidèle en toutes circonstances. Avant d'entrer dans le vif du sujet, il y a un verset qui est sur, vous allez voir prochainement, sur un, c'est une plaque biblique que ma mère elle avait fait pour moi. C'est un cœur qui est chaviré sur le côté, avec une encre de bateau. Puis le verset dessus, c'est Marc 5, 36, qui dit « Ne crains pas, crois seulement ». Ma mère m'avait offert ça bien avant de savoir tout ce qui se passerait pour Aurélie. C'était un verset assez divinement placé sur le coin de mon lit. Qu'à chaque soir, je pouvais regarder ce verset-là. Juste vous lire le contexte de ce verset-là, il faut que je prenne le temps de vous le dire parce que c'est trop spécial. Si vous voulez, vous pouvez ouvrir dans Marc 5, 36. On va commencer à 35. Je vais commencer tranquillement. Comme il parlait encore, des gens du chef de la synagogue vinrent lui dire « Ta fille est morte. Ne donne pas davantage de peine au maître. » Aussitôt que Jésus eut entendu cela, il dit au chef de la synagogue « Ne crains pas, crois seulement. » Et il ne permit à personne de le suivre, sinon à Pierre, à Jacques et à Jean, frère de Jacques. Étant arrivé à la maison du chef de la synagogue, il vit qu'on y faisait un grand bruit, et des gens qui pleuraient et qui jetaient de grands cris. Et étant entré, il leur dit, « Pourquoi faites-vous ce bruit, et pourquoi pleurez-vous? L'enfant n'est pas morte, mais elle dort. » Et ils se moquaient de lui, mais les ayant tous fait sortir, il prit le père et la mère de l'enfant, et ceux qui étaient avec lui, et il entra dans le lieu où elle était couchée. Et l'ayant prise par la main, il lui dit, « Talita Kumi, c'est-à-dire, petite fille, lève-toi, je te le dis. Aussitôt, la petite fille se leva et se mit à marcher. Vous allez voir avec notre histoire que c'est bien de circonstance. juste avant d'entrer dans le vif du sujet, je veux vous mettre dans le contexte qu'en 2001, j'avais acheté un livre intitulé « Non à l'inquiétude » de John MacArthur. J'ai pas eu besoin de faire une très grosse introspection sur moi-même pour me rendre compte que j'étais facilement une femme très inquiète et que mes craintes dirigeaient souvent ma vie. En 2002, il y a divers événements qui ont fait que ce livre est devenu encore plus de circonstances, plus que jamais auparavant. Je vous explique. J'étais quelqu'un qui aimait le confort, qui n'aimait pas les gros changements, mais surtout les changements qui apportaient qui allaient apporter des contraintes financières, je trouvais ça très épeurant. Mais j'avais décidé de pas laisser mes craintes diriger, mais plutôt de laisser Dieu diriger, et lui allait décider si oui ou non les portes s'ouvriraient. Pour certains projets, dont un que mon mari avait décidé de retourner aux études à l'université en musique. Avant, j'aurais dit non catégoriquement. J'aurais dit « t'es fou ». J'aurais eu trop peur à cause de l'insécurité financière, entre autres, que ça pouvait apporter. Mais cette fois-là, je disais plutôt que Dieu dirigerait, puis que si c'était sa volonté, bien, il allait ouvrir les portes, puis il allait pourvoir. On a été fixés assez rapidement parce que un mois plus tard, j'ai fait un test de grossesse, puis il était positif, ce qui n'était pas du tout ça non plus prévu pour nous. Mais je décidais de ne pas laisser mes craintes me diriger, puis l'esprit soufflait sur mon cœur de faire confiance à Dieu. Il y avait un verset à côté de mon lit, que vous pouvez voir, là, qui préparait mon cœur depuis déjà quelques mois. C'était dans l'Évangile qu'on vient de lire. « Ne crains pas, crois seulement. » Et je peux vous dire qu'il a été un grand secours, puis qu'il l'a encore aujourd'hui dans les diverses circonstances de la vie. À chaque fois que les peurs et les craintes veulent envahir mes pensées, je me rappelle ce verset puis je veux faire confiance à Dieu, pratiquer la confiance en Dieu. Et puis Steve, dans tout ça, se blesse au dos, tombe sur le chômage. Puis moi, pour diverses circonstances encore, je ne pouvais pas avoir mon chômage de maternité. Alors Dieu, bref, il m'éprouvait beaucoup. beaucoup d'insécurité financière autour de tout ce qu'on vivait. Je voyais que Dieu voulait me sanctifier puis me faire grandir, tout en me donnant sa parole, qui est la vérité, ne crains pas, crois seulement. Steve venait tout juste de retourner au travail. On allait passer mon échographie, mon bébé bougeait, on a vu que c'était une petite fille. Puis durant l'échographie, je remarque que la radiologue s'arrête longtemps sur la tête. Là, je demande, est-ce que c'est l'habitude de prendre autant de temps, là, puis... Là, j'ai lu une hésitation sur son visage, puis elle s'est dépêchée de me répondre, qu'il y a beaucoup de mesures à prendre. Bon, OK. En revenant chez moi, je fais part de ça à Steve, de mon pressentiment, que je trouvais ça louche, puis que là, il m'a dit, Annie, inquiète pas pour rien. Là, je me rappelais, fais confiance à Dieu, Annie. Deux jours plus tard, la secrétaire du docteur m'appelle pour me convoquer à me présenter sans faute 3 jours plus tard. Tout de suite, en raccrochant, j'ai pris mon ventre puis je me suis mis à pleurer. À trembler, j'étais toute seule. Je me suis assise puis j'ai appelé Steve au travail.
Donc, c'est ça. Moi, j'étais à mon travail et puis, je reçois un appel puis... C'est Annie qui est en larmes puis qui me dit il y a un problème avec le bébé puis il faut qu'on retourne chez la pédiatre. On était vendredi. Puis elle me dit faut qu'on retourne chez la pédiatre lundi. Et puis moi ma première réaction ça a été une chose. Étant donné les préjugés de la société qui sont méchants, puis plein d'ignorance face aux personnes handicapées, ma pensée, puis c'est des préjugés que moi-même j'avais probablement sans m'en rendre vraiment compte. Je me suis dit, non, moi, j'en veux pas d'enfants handicapés, puis même pas un handicap léger. Ma première attitude, c'est une attitude de refus, puis j'avais vraiment beaucoup de pensées qui nous traversaient l'esprit, même si on savait pas vraiment qu'est-ce qui se passait à ce moment-là, mais on savait qu'il y avait un problème, c'était pas normal qu'après notre échographie, une ou deux jours plus tard, on nous appelle pour nous dire il y a une urgence, il y a un problème, c'est pas normal, faut vous revenir rapidement. Puis moi, je pouvais pas supporter l'idée d'avoir un enfant qui allait être différent, puis d'avoir un enfant qui allait être sujet d'être victime, d'être rejeté de la part des autres. Puis, mon cœur allait changer sous l'influence de la grâce de Dieu. Comme je vous disais, on était vendredi, puis on devait attendre au lundi pour retourner voir la pédiatre. Puis, une fin de semaine d'attente pour savoir qu'est-ce que notre bébé avait, c'était vraiment beaucoup. À mon travail, j'ai tout de suite rappelé la secrétaire pour lui demander de savoir plus de choses parce que on voulait avoir une idée fixée au lieu de nager dans l'incertitude puis dans le doute. Et puis, c'est ça. Nous, cette fin de semaine-là, ça a été vraiment très difficile puis c'était très long. Puis, les scénarios qu'on se faisait dans notre tête étaient pour nous, plus souffrant que de savoir la vérité. Puis l'attente de ce moment-là, c'était vraiment long. Puis en préparant ça, on s'est demandé comment ça se fait qu'ils n'ont même pas pris 15 minutes. On était vendredi, pour nous appeler dès le vendredi pour nous donner au moins 15 minutes pour nous informer. Mais eux avaient une fin de semaine, ils étaient fermés, puis leur confort était prévalait sur... Il n'y a pas de compassion vraiment dans certaines personnes dans le système médical n'ont pas vraiment de compassion pour les gens. Donc, c'est ce qu'on a vécu. Puis quand le moment est arrivé, le lundi, de rencontrer la personne, ça s'est vraiment pas passé comme on s'était imaginé, puis ça s'est pas passé comme on aurait voulu. Nous, on avait une foule de questions, puis on pensait, bon, ça y est, là, on va être fixé, on va avoir notre réponse, puis enfin, tu sais, on va... Ça sera pas moins souffrant, mais au moins, on va savoir si on souffre pour rien, ou... j'imagine que vous comprenez. Puis la pédiatre, la réponse qu'elle nous a donnée, c'est une demi-réponse. C'est une réponse très floue. En fait, je pense qu'elle aurait mieux même pas nous donner de réponse, mais à cause de notre insistance, elle nous a répondu qu'il n'avait pas vu le cervelet dans l'échographie. Bon, j'aurais aimé mieux savoir le reste, parce que pas voir de cervelet, ça, nous autres, dans notre tête, ça n'est pas ce que c'était vraiment, puis ça faisait vraiment peur. Fait qu'on avait toute une image en tête pour attendre finalement qu'elle nous a pris un rendez-vous à Sainte-Justine. Puis là, ça prolongeait encore le temps d'attente, qui était un temps de doute puis d'incertitude qui se prolongeait. Puis le pire, quand je vous parle de compassion, là, le pire, c'est quand on a quitté ce bureau, le bureau de la pédiatre cette fois-là, elle nous dit... Si vous savez, peut-être que votre bébé n'a absolument rien. Puis si jamais il y a quelque chose, ben ce sera juste une épreuve, puis vous ne serez pas les premiers à passer par là. Bye. La porte se ferme. Je peux vous dire que j'ai noté que comme si le fait de ne pas être les seuls à vivre une épreuve comme ça, ça aurait pu nous consoler puis nous réconforter. Au contraire, son manque de compassion, ça nous a révoltés. Puis il y en a beaucoup quand on vit des choses comme ça qui nous entourent par des conseils complètement. Des fois, on aimerait mieux rien entendre que d'entendre des choses vides de compassion.
Ensuite, ben j'ai appelé ma mère. J'ai pleuré, puis je me suis mise à questionner Dieu. Mais qu'est-ce qui arrive? Pourquoi moi? Je savais qu'il y avait quelque chose de grave, mais à quel point? On était vraiment dans le néant. Et toute la fin de semaine, j'ai pleuré, puis j'ai angoissé au sujet du diagnostic qui allait tomber. J'étais complètement déboussolée. Ensuite, quand notre rendez-vous, on s'en va à Montréal pour notre échographie à Sainte-Justine. Dans la voiture, en m'en allant à Montréal, on parlait, puis on savait que la question de l'avortement allait être mise sur le tapis. Là. Aujourd'hui, c'est une chose commune, alors on savait que ça allait être proposé. Puis j'ai dit une chose est sûre, c'est qu'elle revient avec moi aujourd'hui. Steve et ma mère étaient présents. Un radiologue arrive pour l'échographie. Regarde comme il faut tout ce qui se passe pour être certain. Il doit aller chercher un deuxième collègue. Le deuxième radiologue arrive. Ils vont chercher un troisième radiologue pour être sûr qu'il voit bien tout ce qu'il voit. Là, ils confirment ensemble le diagnostic pour ensuite nous le dire. Steve et moi, on voulait vraiment tout savoir. Même si c'était un cas noir, là, puis que ça allait pas rassurant, on voulait qu'il nous cache pas de détails. On voulait savoir tout sur l'état de santé de notre petite fille qui avait 20 semaines. Puis ils nous ont annoncé que notre bébé avait la malformation d'Arnold Chiari. C'est un nom qu'on donne pour plusieurs malformations ensemble, que je vais vous expliquer. Elle avait bien un cervelet, finalement. Elle avait une microcéphalie, c'est-à-dire, on appelle ça aujourd'hui une tête d'eau. Mais au lieu, elle, Aujourd'hui, au lieu d'avoir une tête d'eau qui c'est un trop grand liquide, le liquide qui est trop grand dans le cerveau, on a tout ce liquide-là, mais il y en a qui en ont trop. Alors, ça fait soit une macrocéphalie, ça gonfle la tête, ou une microcéphalie, ce qu'avait Aurélie, ce qu'elle a toujours, ça comprime le cerveau. Oui.
Je voudrais juste préciser aussi, par rapport à la microcéphalie, que ce que l'infirmière nous avait dit que, en fait, c'est quoi la différence qu'elle nous avait expliqué ça de la macrocéphalie, de la microcéphalie? C'était que la microcéphalie, c'était que le jeu de compression était tellement intense dans le cerveau à cause de l'eau que le cerveau avait cessé de grandir. Puis elle avait répété ça dans les mots que, dans le fond, son cerveau, il est tellement malade qu'il a arrêté de grandir. Puis que là, après 20 semaines comme ça, on vous dit que ça ne s'améliorera pas, puis même que ça va risque d'empirer de l'état présent. Puis moi, en tout cas, aujourd'hui, vous allez... Peut-être qu'il y en a qui vont trouver que je suis un peu peut-être distant de nos émotions. Ça fait quand même longtemps qu'on a vécu ça, mais je peux vous dire qu'à ce moment-là, ça a été le moment, moi, où j'ai pleuré pour la première fois. Ben non, je pense qu'on avait pleuré avant, là, ensemble. C'est sûr. Mais disons que ça m'a percé le cœur, d'imaginer, de voir de penser que son cerveau pouvait être malade comme ça. Vraiment, je peux vous dire que ça perce le cœur, puis je voulais faire cette petite précision.
Alors, déjà là, à 20 semaines, on pouvait voir qu'elle avait 3 semaines de retard à son cerveau. Elle avait aussi un spina bifida, qui est un trouble de la moelle épinière et de la colonne vertébrale. Et dû à toute ma formation, ce qu'il prévoyait, c'est que ses jambes, sa vessie et son système pour évacuer ses selles seraient probablement paralysées. Pour son espérance de vie, eh bien, il disait que notre bébé serait sûrement un légume et qu'il vivrait quelques mois s'il n'y avait pas d'acharnement thérapeutique, et avec l'acharnement thérapeutique, quelques années tout au plus. Donc, aucune qualité et aucune espérance de vie. Après l'échographie, je devais aller voir le gynécologue. Il nous a tout réexpliqué la patente. Puis l'image qui m'est venue en tête, c'est comme si j'étais sur une plage puis que je voyais maintenant, on a bien l'image avec le tsunami qui est arrivé, mais je me sentais vraiment comme ça, comme une personne sur la plage, puis tu vois la grosse vague s'en venir qui va te submerger. C'était comme ça que j'étais. J'étais bouche bée, puis je pleurais. Steve, lui, voulait tout savoir sur les possibilités, qu'est-ce qu'on peut faire, puis ma mère pleurait aussi, évidemment. Puis est venue la question de l'avortement. Puis, quand la question est venue, on était encore en train de traîner dans la vague de fond, à se faire barouetter d'un bord puis de l'autre. Puis là, il nous amène la question de l'avortement encore pour encore plus nous brasser. C'était vraiment très intense. Puis là, toutes sortes de questions qui m'est venue en tête, comme est-ce que je suis capable de m'occuper d'un bébé qui est gravement handicapé? Puis non, ça me tente pas, je veux pas. C'est beaucoup de troubles, c'est beaucoup de ça prend beaucoup de force. J'ai pas cette capacité-là. Ça va être un fardeau. Puis si elle est pour mourir, pourquoi la mettre au monde pour la faire souffrir? C'est horrible. Nous autres aussi, on va souffrir. Et puis, en tout cas, dans mon cœur, ça virait d'un bord puis de l'autre. Les pensées, c'était... Dans mon cœur, je veux pas rien savoir de l'avortement. J'ai toujours eu cette conviction-là, mais là, ma décision a l'air à chambranler, puis à... En tout cas, j'ai l'air plus solide comme je pouvais l'être dans une autre situation. Alors, on était vraiment ébranlés dans nos émotions, et nos convictions ressentaient l'effet. Et puis, je me questionnais, et plus le gynécologue me parlait de l'avortement comme un soulagement. Bien, vous savez, il y a des personnes qui avortent pour beaucoup moins de troubles que ce que votre fille a là. Voyant ma confusion, il est même allé jusqu'à inscrire mon admission pour l'avortement le surlendemain, que je venais de tout apprendre ça. Et puis après, ben si vous voudrez, on peut peut-être vous garder à soir aussi, là. C'était comme ça. Là, j'ai fait « wow ». Là, ma tête a vraiment repris le dessus de mes émotions. J'ai fait « non, 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 je vais y réfléchir ». Là, encore, là, je pleure encore. Puis en arrivant à Drummondville, j'appelle Alain Morissette, qui était le pasteur. Puis je lui demande s'il peut nous rencontrer, là. Puis heureusement, il a dit oui, qu'il était disponible. Arrivé à son bureau, Steve explique tout ce qu'on vient de se faire, tout ce qu'on vient d'apprendre. Commence à le questionner sur ce qu'il pensait sur l'avortement thérapeutique, ces choses-là. Moi, j'étais vraiment comme une morte vivante. C'est comme si la Terre avait arrêté de tourner. Je me rappelle de pas grand-chose de ça. Sauf que la seule chose que je me rappelle, c'est que Alain nous a dit que la décision se passait entre nous et Dieu, puis qu'on pouvait se poser cette question. Est-ce que Dieu a donné le droit aux hommes de prendre la vie d'un enfant? Alors là, dans mon cœur, je savais très bien que c'était pas mon droit, mais là, j'y étais confrontée. Alors, c'était d'autres choses. Puis on était deux à prendre la décision, puis nos sentiments prenaient le dessus. On ne voulait pas vivre cette épreuve-là, mais on était dedans. On a prié, pleuré, encore prié.
Par rapport à cette question-là, je voudrais aussi dire que, en fait, à ce moment-là, quand c'est arrivé, tout de suite dans ma tête, dans nos têtes, il y a eu certaines questions. En fait, sur l'avortement, en tant que chrétien, une éthique. On a une éthique chrétienne par rapport à l'avortement. On n'est pas pour l'avortement, on est contre l'avortement. Mais quand est venue la question d'avortement thérapeutique, on n'avait jamais eu d'enseignement là-dessus. Puis on se demandait, bon, est-ce que ça, pour nous, est-ce que c'est une zone grise? Est-ce que c'est quelque chose qu'il faut inclure dans notre prise de position contre l'avortement? Est-ce que, tu sais, c'est des questions que, à ce moment-là, qu'on s'est posées, qu'on a posées à d'autres. Puis je peux vous dire qu'il y a des chrétiens très estimés qu'on a autour de nous, que je pense que si on l'avait fait, ils auraient été d'accord avec nous. C'est vraiment une zone difficile, là, rendue là, surtout quand on est dedans, qu'on souffre, qu'on se pose ces questions-là. Et puis, c'est ça, mais Alain, lui, il nous avait posé cette question-là. Puis, est-ce que Dieu, à qui revient le droit sur la vie et sur la mort? C'est toute une question, qui est au-dessus de la vie et de la mort? C'est quand on s'est imaginé prendre le dessus là-dessus, qu'on s'est vu prendre la place de Dieu, puis qu'on s'est vu, on a eu peur. Moi, j'ai eu peur. J'ai dit non. Et il y a eu plus de paix dans mon cœur et dans nos cœurs de laisser ces choses-là entre les mains de Dieu que de se mettre sur la conscience d'avoir joué le rôle de Dieu, puis d'avoir une culpabilité peut-être pour le restant de nos jours sur la conscience. Et cette paix-là était bien supérieure qu'à la, je pense, la peut-être soi-disant paix qu'on aurait eue en choisissant l'avortement thérapeutique.
Alors, comme Steve l'a dit, on a tout de suite eu dans le cœur que c'était pas notre droit. Et puis là, la grâce de Dieu s'est mise à surabonder. La nuit passée, je me lève avec la conviction que ce n'est pas mon droit d'enlever la vie de ma fille, que c'est Dieu qui donne la vie puis qui décide quand elle se termine, au temps et au moment donné par lui seul. Un fardeau venait de tomber de mes épaules, puis j'en remerciais Dieu, comme Steve dit. Ce matin-là, on s'en était parlé la veille, mais on n'avait pas pris de décision ensemble sur ça, tout ça. Puis ce matin-là, quand on s'est levé, tous les deux, on avait la même conviction, sans s'en parler. Puis Dieu avait tout placé dans nos cœurs parfaitement pour qu'on s'en aille tous les deux à la même place. Puis à partir de ce moment-là, ben il nous fallait s'appuyer sur Dieu, compter sur lui pour nous consoler, nous donner la paix face à tout ce qui s'en venait, nous donner la grâce de traverser chaque jour de cette épreuve. Je peux vous dire que c'est vraiment chaque jour. Et puis, les rendez-vous à Sainte-Justine ont déferlé. Le combat de la foi commençait. Il était inscrit dans mon dossier que moi et Steve, on avait refusé l'avortement. Mais curieusement, chaque fois que je rencontrais un nouveau spécialiste, à chaque fois, le nouveau spécialiste venait nous voir, puis « Mais on vous a-tu proposé l'avortement? » À chaque fois. Puis c'était écrit dans notre dossier, là. Soit qu'il lisait pas le dossier, soit qu'il faisait exprès. Mais c'était difficile, mais en même temps, je voyais une belle porte que Dieu ouvrait pour leur dire que non, on croyait pas. Non, on avait décidé de pas de refuser l'avortement, puis c'était une belle porte pour leur dire que c'était pas notre droit, puis que ce droit-là revenait à Dieu. Alors, ma grossesse se déroulait bien en général. Aurélie bougeait ses pieds, ce que je comprenais pas, parce que le neurochirurgien disait qu'elle allait être paralysée. Moi, je chantais très bien les petits coups de pied dans mon ventre. Mais ses malformations, surtout au niveau de sa tête, de son cerveau, empiraient. Jour pour jour, un mois, jour pour jour avant l'accouchement, Aurélie, son cerveau était rendu à 6 semaines de retard. Alors, à 3 semaines, on disait qu'elle allait être légume. Alors, à 6 semaines, c'est quoi? Je sais pas. C'était difficile parce que durant toute ma grossesse, je priais que la volonté de Dieu se fasse. Mais en même temps, que je savais que Dieu voyait le désir dans mon cœur, qu'il fasse de ma fille un objet de miracle, tu sais. C'était une dualité. J'ai remis en doute ma foi, beaucoup, l'efficacité de la prière aussi. Lorsque j'ai vu que son cas avait empiré, Dieu restait silencieux. Pour moi, je criais à l'aide, puis Dieu ne me répondait pas. Il restait silencieux devant mes cris, mes larmes, puis je ne comprenais pas. C'était vraiment comme ça que je le vivais. À travers tout cela, ben Dieu a resserré les liens entre Steve et moi. Vraiment, ça, c'est une grâce que Dieu nous ait gardés unis à travers cette difficulté-là. J'ai lu un livre avec Steve, un chrétien, qui parle d'une petite fille qui est gravement malade, un livre chrétien. Ça explique beaucoup l'univers médical, ça nous rejoignait beaucoup. C'était vraiment de contexte, puis ça nous aidait beaucoup à sortir de notre tristesse. Parfois, on lisait seulement quelques paragraphes parce qu'on n'était plus capable de lire, on voyait plus rien. Le niveau d'eau montait, puis fait qu'on arrêtait, puis on priait ensemble. Puis j'ai lu aussi « Bannissez la crainte » de Sheila Walsh, tout en peinturant des plaques bibliques avec ma mère. Ça m'aidait à garder les yeux sur Dieu, à m'accaparer les vérités, puis à pas oublier que je devais lui faire confiance malgré tout. On s'est vraiment entouré de la parole de Dieu puis pour surpasser tout ça. J'appréhendais l'arrivée d'Aurélie avec du stress, bien sûr, mais avec la paix de Dieu aussi, qui était au contrôle de tout. Steve et moi avions précisé qu'on ne voulait pas aucun acharnement thérapeutique, que je prends souvent l'exemple d'un cours d'eau qu'on prend dans notre main, puis si on penche à droite, ça va couler à droite. Si on penche à gauche, ça va couler à gauche. Je me suis dit, bien, Aurélie est comme ça dans les mains de Dieu. Si Dieu penche à gauche, ça va à la gauche. Je me suis dit, on va laisser les choses couler dans la main de Dieu. Alors, le 1er août, vendredi, travail commence, je me rends en ambulance à Sainte-Justine, vers l'heure du souper, et divinement arrangé, les vacances de Steve commencent en été. Alors, à mon arrivée, l'infirmière me met 2 moniteurs sur le ventre, dont un pour les battements du cœur d'Aurélie. Ça me rassurait beaucoup parce qu'à chaque échographie que j'allais, je voyais que ma fille était encore en vie, même si je la sentais bouger. Mais puis là, le moniteur cardiaque, c'était extra, j'entendais son cœur battre. T'sais. C'était une assurance pour moi que ma fille était toujours là en vie. Mais l'infirmière arrive puis elle dit « faut que je vous l'enlève ». Je n'étais pas contente parce que je dis « pourquoi? Je veux pas ». Mais elle dit « c'est parce que dans le feu de l'action, si jamais arrive quelque chose avec votre fille, vous allez peut-être revenir sur la décision de l'acharnement thérapeutique, la réanimation, ces choses-là. Puis, ben eux, ils ne seront pas préparés. Puis, nous, ça va avoir changé notre idée de base qu'on avait à froid. » Alors, c'est bien sensé, tout ça. Sauf que moi, dans mon cœur, ça me déchirait vraiment. J'entendais Dieu me dire, « Tu veux me faire confiance? Ben fais-moi confiance jusqu'au bout. » Là, j'ai pleuré beaucoup parce que je devais faire le deuil d'entendre les battements de mon cœur. Puis là, je devais vraiment me remettre entièrement à Dieu qui contrôlait tout.
Ah oui. Je voudrais juste faire une petite parenthèse sur notre choix de pas d'acharnement thérapeutique. C'était dans notre pensée une suite de notre décision que si on prenait pas de moyens médicaux pour mettre fin à ses jours, on prendrait pas non plus de moyens médicaux pour la soutenir artificiellement. Ça allait vraiment dans le... Soit qu'on le mettait dans les mains de la médecine ou qu'on les mettait dans les mains de Dieu, comme Annie l'avait expliqué. Ensuite, c'est ça, pour revenir à l'histoire, ben à ce moment-là, à l'hôpital, moi, j'ai fait une prière pendant les heures d'attente là, des contractions. Et puis, cette prière-là, c'était une prière très simple, parce qu'on sait quel sauveur on a. Et puis, des fois, c'est vrai qu'on se demande où il est, même si on sait. On sait, la parole de Dieu nous le confirme, l'Esprit de Dieu nous le confirme dans notre cœur qui est près de nous, mais je lui ai simplement dit, je sais quel sauveur tu es et de quel... Puis je lui ai dit simplement que le Dieu que tu es, capable de toutes choses, je lui ai demandé de faire quelque chose si c'était sa volonté. Je lui ai dit, je sais... qui tu es. Je sais, l'Évangile nous rapporte les grandeurs de tes œuvres, de tes miracles. Puis, tu sais, si tu veux faire quelque chose, toi, c'est toi qui peux le faire. Et je m'en suis remis dans ses mains, sachant pas vraiment ce qui allait arriver, et même que Annie ne l'a pas précisé, mais nous, quelques semaines auparavant, puis on était en préparatif de l'enterrement. Nous, c'était certain là, qu'elle allait pas vivre. Le pas d'acharnement thérapeutique, c'était quelques mois tout au plus. Puis moi, personnellement, je m'attendais pas à un enfant qui respirait par elle-même, ni à un enfant qui aurait son cœur qui battrait par elle-même. Moi, je m'attendais à avoir un enfant qui sort, là, puis qui respire pas, qui allait mourir là parce qu'on ne s'acharnerait pas. C'était ça qu'on avait en tête. Et puis, dans notre tristesse, on a demandé au bon sauveur de faire quelque chose pour nous.
Ça a été juste au lendemain matin qu'Aurélie s'est pointée le bout du nez. Mais toute la nuit, par des circonstances divines, j'ai pu me reposer. Je sentais pratiquement aucune contraction, même si j'étais provoquée. Alors, Dieu me donnait un temps bien spécial et calme dans la paix. Alors, le 2 août 2003, Aurélie arrivait. J'avais un peu peur de la réaction de Steve parce que dans toute cette situation, mais Dieu a pourvu un mari vraiment qui était un aide, un support très efficace. Il était calme, il était émerveillé de tout ce qui se passait. Puis lorsque sorti de mon ventre, Steve est figé devant cette petite merveille-là. Il était stupéfait, elle respirait, qu'il dit. Il était bouche bée qu'elle soit en vie. Le docteur lui a demandé à 3 reprises de couper le cordon. Non, il s'en souvient pas. Et là, d'entendre ses pleurs, de l'avoir bougé, ses petites jambes, évacué, têter mon petit doigt, j'ai tout de suite su que Dieu avait fait quelque chose. Puis que le scénario ne serait pas aussi sombre que prévu. Enfin, Dieu parlait. Il était plus silencieux. Les médecins ont amené Aurélie pour effectuer des tests, puis le néonatologiste est venu nous voir avec le sourire aux lèvres, un regard rempli de questions, perplexe à la situation, et il lit dans le dossier, c'est pas ça qu'il voit à côté. Il me dit que les tests sont pas finis, mais que jusqu'à présent, tout va beaucoup mieux que prévu. On m'a amené à ma chambre, puis l'infirmière me dit qu'elle est vraiment surprise parce qu'ils ont fait le test d'Apgar, qui est un test pour tous les nouveaux-nés qui testent les réflexes. D'habitude, ils donnent à Sainte-Justine, en tout cas en moyenne, ils donnent un 8 ou 9 sur 10, parce qu'il y a un bébé en santé puis tout va bien. Là, ils avaient donné à Aurélie 10 sur 10. Moi, je souriais puis je voyais Dieu me faire des gros clins d'œil. C'est ça, vas-y, c'est.
Oui, et c'était spécial, c'était vraiment, c'était un moment qu'on va se souvenir toute notre vie. Ce petit bébé-là qui vraiment, les médecins étaient, ils comprenaient pas, puis il n'y a pas un médecin, pas une infirmière qui lisait le dossier, qui nous rencontrait, qui comprenait pas, puis c'est vraiment que la tête, moi je me pose encore la question, la tête avait vraiment 6 semaines de retard, là, leur lecture, là, c'est des machines précises à Sainte-Justine, c'est... Ils voient la proportion entre les membres puis la tête, puis ils voyaient la tête 6 semaines plus petite. C'est pas une semaine plus petite, c'est 6 semaines.
À sa naissance, il n'y avait plus rien du tout.
Non, c'est ça.
Il n'y avait plus aucun
retard. Quand ils ont pris les mesures de la tête, là, la tête était correcte. Puis aujourd'hui, Aurélie a encore, elle a encore cette malformation-là, mais tu sais, les séquelles, ils sont comme presque pas là, sinon pour sa vessie, elle a des problèmes. Oui, c'est plus loin qu'elle me dit. Mais n'empêche que je me dis, peut-être que le Seigneur a laissé une trace de cette maladie-là pour qu'on se dise pas, ils ont fait une erreur, les médecins, ils ont rien vu, parce qu'ils ont vu de quoi, elle l'a. Mais il y a eu, en tout cas, c'est, tu sais, je me disais en m'avenant, je voulais vous dire, de pas oublier de vous dire que moi, je suis pas un marchand de miracles, là, je suis pas... Je viens pas vendre des miracles comme on vendait des indulgences. Mais quand même, je pense que c'est spécial. Puis le Seigneur a compassion de nous. Il nous laissera pas souffrir là jusqu'à des points extrêmes dans sa providence. Il limite tous les... il limite les souffrances là jusqu'où on peut les supporter. Puis ça, je rends gloire pour ça. Et puis, c'est à la suite de l'accouchement qu'on a rencontré un nouveau médecin. Et puis, j'ai écrit ça comme ça. C'est alors que nos yeux se sont ouverts et que nous avons vu que la providence de Dieu était, comme toujours, au-dessus des circonstances de ceux qui aiment Dieu, de ceux qu'il a appelés selon son dessein. Parce qu'on l'oublie dans tout ce... On le voit pas, ce Dieu-là qui est... par-dessus, au-dessus de nos vies, puis qui contrôle tout, puis on a beau nous le dire, Dieu est au contrôle, on le voit pas, mais là, on l'a vraiment vu ce jour-là, puis là, tu sais, c'est pas qu'il était pas là, la providence de Dieu, c'est nous qui la voyions plus. Ben, moi, en tout cas, Annie, je dis pas, mais moi, là, il y a des bouts, là, ma foi, là, était, elle voyait pas très, très, très loin, vraiment pas souvent. Et puis, c'est ça. Fait que ce médecin-là arrive, puis moi, je l'appelle mon docteur Dougie, parce que c'est un jeune médecin, OK? Il est grand, il est mince, puis il a les mêmes cheveux, la même coupe de cheveux. Je vous le dis, moi, en tout cas, puis il est anglophone. Puis il est arrivé, puis tu sais, c'était vraiment un bolé, tu sais, Et puis, il arrive, puis le néonatologiste de Sainte-Justine nous le présente. Il vient pas de Sainte-Justine. En fait, c'est ça que je veux. Les circonstances comme telles, c'est que le neurochirurgien de Sainte-Justine est en vacances. Puis lui, on n'en a pas parlé, mais ce neurochirurgien-là, lui, il en avait mis de la pression pour l'avortement. C'est, et lui, c'est, je vais m'en souvenir toute ma vie du docteur Mercier. Peut-être qu'on va aller y porter un extrait de ce témoignage-là. Mais vraiment, on allait rencontrer ce néo... Vraiment, pour être bref, on allait le rencontrer, le docteur Mercier, juste pour savoir si on le gardait, l'enfant, quelle chirurgie était possible, puis, tu sais, l'espérance... On voulait le questionner pour avoir une idée sur l'espérance de vie de cet enfant-là. Puis, il a passé tout le long. Il a balayé la raison d'être de notre rencontre pour nous exposer son beau discours pro-avortement.
Mais là, il était en vacances.
Et puis, ça tombait bien parce que nous, on ne l'aimait pas, ce neurochirurgien-là. Et c'est le neuro... Et à Montréal, les neurochirurgiens pour les enfants, il n'y en a pas 100. Il n'y en a pas 10. Il y en a en bas de 10 parce que Sainte-Justine, il y en avait un en vacances puis il n'y en avait pas d'autres. Fait que c'est un neurochirurgien de l'hôpital pour enfants de Montréal, le Montreal Children's Hospital, qui vient prendre en charge les cas urgents à Sainte-Justine qui ne peuvent pas attendre au-delà des vacances. Et puis, c'est ça, c'est le docteur Atkinson qui vient nous rencontrer. Et puis là, le néonatologiste qui est de Sainte-Justine, qu'on connaissait bien, qui nous connaissait bien, qui ne comprenait pas plus qu'est-ce qui se passait que les autres médecins, il nous dit, il y a deux écoles de pensée par rapport à tout ça. Il y a l'école de pensée de M. Mercier, puis il y a l'école de pensée de M. Atkinson. C'était notre école. Et puis, nous, bon, lui, il nous dit, moi, j'ai vu dans votre dossier que vous avez renoncé aux acharnements thérapeutiques. Et puis là, lui, il voit l'enfant, il voit les possibilités, puis là, il nous dit, mais qu'est-ce que vous voulez faire? Est-ce que vous voulez toujours laisser l'enfant aller par lui-même? Ou si vous voulez poursuivre... Là, on lui pose une série de questions, à savoir, bon, est-ce qu'il y en a des opérations possibles? Parce qu'on ne l'avait toujours pas su, nous, par l'autre neurochirurgien, il ne nous l'a pas dit. Il dit, ben oui, il y a des opérations possibles. Il y en avait deux, il nous explique tout ça. Je n'entrerai pas dans les détails, parce que ça serait long. Il nous dit, oui, il y en aurait deux, une demain, le plus vite possible, demain matin. Là, on lui dit, OK, mais si on fait tout ça, l'espérance de vie, c'est quoi? On nous avait dit qu'il n'y en avait pas, que c'était quelques mois, c'est pas d'acharnement, puis avec acharnement thérapeutique, c'était... Le docteur Mercier avait dit 9 ans peut-être, je sais pas, puis c'est fini là. C'est ça qu'il nous avait dit. Il dit non, 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 non. Puis elle nous avait bien dit qu'elle n'irait jamais à l'école. Lui nous dit non, 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 elle va avoir une qualité de vie intéressante, elle va marcher, bien, parce que là ses jambes bougeaient. Donc elle va probablement marcher de ce que je peux voir. Elle va sûrement aller à l'école. Comme un enfant dans des classes normales, peut-être avec un déficit d'attention. J'en oublie-tu?
Non.
Tu sais, c'était très positif. Et puis, il nous a dit, la seule chose, il faudrait la transférer à l'hôpital de Montréal pour enfants. On n'a pas réfléchi longtemps. On voulait qu'elle sorte de Sainte-Justine parce que pour nous, c'était pas notre hôpital. On s'est rendu compte que le Children's était... beaucoup plus spécialisé en matière de spina bifida et d'hydrocéphalie. Sainte-Justine, ils étaient moins. Ils sont peut-être avancés. Ils sont avancés sur d'autres domaines, mais celui-là, moins. Donc, on est allé avec les chirurgiens du Children's.
Alors, Aurélie, finalement, a été transférée. Elle a été opérée à une journée de vie au niveau de sa colonne vertébrale. Et opéré à 10 jours au niveau de son cerveau pour l'hydrocéphalie. Les deux opérations ont été une réussite. On a été sur l'adrénaline pendant 2 semaines de temps. Dieu nous a soutenus jour après jour. Il nous donnait la force nécessaire, il était fidèle. Il nous a remplis de sa grâce et de sa paix. Jusqu'à présent, Dieu nous montre sa grandeur, sa puissance et sa bonté. En faisant d'Aurélie une exception, même concernant les statistiques de l'hydrocéphalie, la plupart des enfants qui ont un drain, comme Aurélie, qui sert à drainer le surplus de liquide dans son système, se font opérer dans les 2 premières années de vie, la majorité, pour diverses raisons concernant le drain. Aurélie a 4 ans aujourd'hui, puis il n'y a aucune chirurgie qui est en vue encore, puis tout va très bien. Son développement est normal, sauf pour sa vessie qui est dysfonctionnelle, puis ainsi qu'une faiblesse puis une insensibilité au niveau de ses jambes. Mais elle court, elle saute, elle grimpe, comme toutes les autres. Elle se fatigue un petit peu plus vite. Pour le reste, elle est très intelligente, très énergique. Puis elle nous dit depuis quelques jours maintenant qu'elle croit en Jésus. C'est merveilleux, hein? Gloire à Dieu. En finissant, après avoir pris du recul face à tout ça, et après avoir bien réfléchi à cette épreuve que Dieu a permis, je peux vous dire que ce verset-là ne craint pas, croit seulement, et est scellé dans mon cœur. Quand je commence à m'inquiéter pour quoi que ce soit, ça ne dure jamais bien longtemps, puis rapidement, le Saint-Esprit me rappelle que je dois faire confiance à Dieu. Maintenant, au lieu de pratiquer l'inquiétude, ben, je pratique ma confiance en Dieu. Juste avant que Steve dise qu'est-ce que ça a changé pour lui aujourd'hui? Je veux juste vous dire que un point très important parce que en même temps que nous, on vivait le miracle d'Aurélie à l'église à Drummondville, en même temps, il y avait une jeune fille qui avait 7-8 ans, qui, elle, c'était totalement contraire. Elle avait une maladie dégénérative. Puis elle était en train de mourir. Puis Dieu n'a pas permis que cet enfant-là continue à vivre aujourd'hui. Alors, ça m'a fait poser vraiment beaucoup de questions. Ça aussi, ça m'a ébranlé beaucoup. Puis je me suis dit, si Dieu en avait autrement décidé pour Aurélie, s'il avait décidé de venir la chercher aussi vite que les médecins le prévoyaient, ben, je crois qu'avec le temps, j'en serais quand même venue à cette conclusion-là, que malgré tout ce qui peut arriver, je peux soit céder à mes inquiétudes, mes craintes, mes peurs, ou je peux en faire part à Dieu, lui qui voit tout ce qu'il y a dans mon cœur, lui qui m'écoute, même s'il reste silencieux, parfois, et décider de le suivre, lui, puis de lui faire confiance pour tout, de croire en lui. Alors, de ne pas craindre, mais de croire seulement. Moi, ça me termine comme ça. Je vais laisser Steve dire qu'est-ce que ça a fait aujourd'hui.
C'est sûr que ça serait très long d'expliquer de long en large que ça peut avoir changé dans nos vies. Parce que, écoutez, on a un enfant avec nous qu'on pensait pas avoir en réalité. Fait que ça a changé vraiment beaucoup de choses. Et c'est parce que je disais au début que moi, d'avoir même un enfant avec un léger handicap, j'en voulais pas parce que, à cause des pressions de la société, des jugements de la société, ça me dérangeait. Et puis, le Seigneur a vraiment changé mon cœur en cours de route, parce que sinon j'aurais pas gardé l'enfant, parce que là on était prête à vivre avec ce qui allait être là. On n'a pas choisi ça en se disant bon, on fait confiance à Dieu parce que c'est le Dieu des miracles, il va faire un miracle. On ne croit pas en Dieu en espérant de lui des miracles. C'est pas du tout ça. Puis on ne croit pas en Dieu en s'attendant de lui que ça va toujours bien aller. Dans la parole, c'est clair à plusieurs endroits que le Seigneur envoie le bon et le moins bon aussi dans nos vies, et tout dans sa balance, tout est bien balancé là, de sorte que on n'en ait pas trop d'épreuves non plus. Je pense que c'est ce qui est arrivé pour nous. Mais moi, c'est en cours de route, le Seigneur a vraiment changé mon cœur. Et même aujourd'hui, j'ai pas le même regard sur les enfants handicapés, sur les personnes handicapées. Le Seigneur a fait que maintenant... Je porte plus ces jugements-là. Je comprends que ces personnes-là ont pas choisi leur situation, que ces personnes-là aussi, je sais pas, je les regarde avec les yeux d'un père, pas comme eux, mes enfants, mais avec les yeux d'un père qui aime son enfant, peu importe sa condition. Que ce soit visible, non visible, qu'elle marche croche, les jambes de même, parce que spina bifida, quand ça s'aggrave, ça vient comme ça, puis le dos se tord. Vous avez déjà vu ça, vous savez c'est quoi un spina bifida dans le fond? Tu sais, ceux qui marchent le dos tout croche comme ça, là, souvent c'est un spina bifida. Il n'y a rien qui dit un jour non plus que ça peut pas, Dieu peut pas laisser aller ça. Et puis, moi, quand... Ça fait toujours bizarre de voir des gens marcher comme ça ou d'autres maladies, mais moi, je regarde mon enfant avec les yeux d'un père qui l'aime, puis je suis capable maintenant de porter un regard différent sur les autres enfants. Puis j'espère que par la grâce de Dieu, même si vous n'avez pas nécessairement d'enfants handicapés ou de gens dans votre entourage handicapé, que vous allez être capable de porter un regard différent sur ces gens-là. Dites-vous que Dieu les aime, puis que aussi qu'ils ont des parents qui les aiment, puis mettez-vous à la place de leurs proches qui les aiment, puis essayez de les aimer. Je pense pas que ce soit contre la volonté de Dieu ce que je vous dis là. Donc, si dans le peu de temps qu'on a, les, peut-être quelque chose que ça a changé dans nos vies.
Juste en terminant, j'ai apporté quelques photos d'Aurélie quand elle était bébé. On va la voir dans, au début, deux photos dans l'incubateur. Au début, elle n'avait pas 4 heures de vie, là. Elle devait être couchée sur le ventre, étant donné que sa colonne vertébrale s'était ouverte dans son dos. Ce qui était extraordinaire aussi, c'est qu'un enfant naissant comme ça, habituellement, ne bouge pas beaucoup, dort. Mais Aurélie, elle a patiné avec ses pattes comme ça, puis elle se tournait la tête. Elle était capable de se lever comme ça, puis de se tourner la tête à même pas une journée de vie, là. Non.
Ça, c'est... L'hôpital était prête.
Oui, mais durant nous, c'était un bureau qu'elle allait avoir là, dans la chambre, puis on revenait pas avec Aurélie. Là. Alors, mes parents et des amis ont tout préparé ça durant qu'on était à l'hôpital. Là.
Ça, c'est de retour. Ouais. La première chose que j'ai faite, j'ai joué de la guitare. Mais on était emprisonnés 2 semaines là, à côté d'un lit avec des fils. Tu peux pas aller loin, tu es dans une chaise droite. Moi, une des premières choses que j'ai faites, je me suis couché avec le bébé sur le divan, puis je restais là longtemps. On avait notre...
On en profitait parce qu'elle n'avait pas de fil, elle n'avait pas rien, puis là, on l'avait à côté de nous. Là.
Puis 2 semaines à l'hôpital, on n'a pas dit que quand on nous a annoncé qu'on pourrait partir avec l'enfant, la débrancher, nous autres, on ne savait pas si on était là 2 semaines ou 2 mois. Même après une semaine, maintenant on a commencé à savoir. Puis là, ils nous ont dit, le jour que vous allez apprendre à faire ces cathéters pour sa vessie, vous allez pouvoir partir. Ça n'a pas été vraiment long qu'on l'a. Non, moi, c'est juste ça. On va l'apprendre, puis je pense qu'il y avait des infirmières qui étaient moins bons que nous autres.
Oui, les infirmières ont souvent plus de difficultés parce que pour une petite fille, c'est pas évident, là.
Ils font des cathéters sur souvent des adultes ou des enfants plus vieux. C'est quand même rare parce que, étant donné la pression pour l'avortement, les gens avortent peut-être à 99 % du temps.
À côté, c'est une petite amie qui a le même âge, puis l'autre côté, c'est sa sœur, Marissa. Non, pas du tout. On l'a tellement surstimulé qu'aujourd'hui, ouais. Elle est même en avance sur son âge. Là. Ouais.
Mais ta question, est-ce que ça s'est concrétisé, c'est quoi?
Non, à la naissance, il n'y avait plus rien. Il n'y avait plus rien de semaine de retard. Ouais.
Non, ben en fait, une des opérations, c'est qu'ils ont posé un drain pour drainer le liquide du cerveau. Dans le où il doit aller, dans le fond. Parce que le problème, c'est que dans le cerveau, il y a des ventricules qui font circuler.
À l'école.
La circulation normale, il était bloqué. Fait qu'eux, par un drain, ils vont drainer à la place des ventricules liquides qui fait une circulation normale. Mais eux, ils craignaient que les dégâts, avant de réussir à poser ce drain-là, ils craignaient que les dégâts soient trop majeurs puis qu'elle soit, malgré le drain, qu'elle soit atteinte de séquelles, ce qui n'a pas été le cas par la providence de Dieu. Et puis, aujourd'hui, on a même vu que... mais nous, on nous parlait de ça comme quelque chose d'expérimental. Mais c'est pas si expérimental que ça. Ça commence à se faire couramment aux États-Unis. Ils ouvrent le ventre, puis ils vont faire l'opération directement dans le ventre de la mère. Comme ça, les séquelles sont... Le drain... je sais pas si c'est un drain qui pose, mais tu sais, ils vont limiter les dégâts. Peut-être si ça avait été recommencé, peut-être qu'on aurait...
Peut-être.
Est-ce qu'il y avait d'autres questions?
Merci.